Espace public sur Couleur FM, l'émission qui donne des couleurs à la politique. Retrouvez chaque semaine les candidats aux élections municipales 2014.
Alors voilà, notre nouveau rendez-vous sur l'antenne de Couleur FM, Espace Public, émission dédiée aux élections municipales. Aujourd'hui, spécifiquement avec Bourgoin-Jallieu, où nous allons recevoir Vincent Schricky. Alors cette émission, un petit peu particulière, elle dure 30 minutes, chronomètre en main, parce que il faut la parité, il faut l'égalité de temps de parole pour chaque candidat. Nous allons faire cette émission pour présenter les candidats dans les principales communes du Nord-Isère, en nous excusant d'avance auprès des autres communes que nous aurons moins le temps de couvrir. En tout cas, Bourgoin-Jallieu, l'île d'Abeau, la Verpillière, Villefontaine et la Tour du Pin vont bénéficier de ce programme, avec donc ces 30 minutes consacrées à chaque candidat que nous tenterons de présenter, qu'ils tenteront de se présenter le plus complètement possible, en allant dans le fond des idées plutôt que dans la polémique politicienne, en allant dans cet intérêt du territoire, du développement du territoire, qui est l'intérêt aussi de notre radio associative, et ce pourquoi nous nous intéressons fortement à la politique locale, de manière finalement à vous permettre chacun, à la veille du vote, de pouvoir retrouver peut-être sur nos sites internet les podcasts qui vous permettront de réécouter chacun et de faire votre choix en votre âme et conscience. Voilà, peut-être rappeler que ce programme fait partie d'un programme collectif au niveau régional, au niveau interrégional, national aussi, dans le réseau Médias Citoyens, avec des médias associatifs qui partout vont essayer de couvrir les élections municipales à peu près de cette manière, et vous retrouverez tous ces contenus sur le site mediacitoyen.eu. Mais pour l'heure, place à Bourgoin-Jallieu, Vincent Schricky, Véronique.
Alors bonjour Vincent Schricky, on va vous rappeler un petit peu les règles du jeu. Vous êtes ici pour nous parler de ce que vous envisagez pour la commune de Bourgoin-Jallieu dans ces prochaines élections. Alors vous vous présentez votre liste Faisons gagner notre ville sur une liste d'union de la droite et du centre, UMP-UDI. Alors est-ce que vous pouvez d'abord dans un premier temps nous faire une petite carte d'identité? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous peut-être?
Alors où je vais, ça c'est les électeurs qui le décideront dans quelques semaines. Mais d'où je viens, je suis grenoblois d'origine. J'ai fait d'abord des études d'ingénieur et puis une carrière dans l'administration, notamment dans les cabinets ministériels auprès de François Fillon et d'autres ministres. Et aujourd'hui, je travaille dans une juridiction financière. Et j'ai fait cette carrière parce que finalement, j'ai fait le choix très tôt du service public. Ce sont mes valeurs, la poursuite de l'intérêt général. La conduite des affaires publiques avec rigueur, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de m'engager en politique. J'ai été élu en 2010 conseiller régional de ce territoire, ce qui m'a permis de porter un certain nombre de dossiers locaux dans le domaine de l'économie, de la formation, etc. Et je me suis présenté aux élections législatives en 2012, où j'ai échoué de très peu, avec 49% des voix, mais ça c'est la règle de la démocratie, et j'ai décidé de me présenter à Bourgoin-Jallieu, qui est ma ville, où j'ai ma permanence, et qui est un peu le cœur de ce territoire où je m'étais déjà présenté aux législatives, donc il y a une continuité, mais il y a aussi et surtout un engagement qui répond à une ambition qui est de dire cette ville qui a tout ce potentiel, en termes de dynamisme, en termes de positionnement, d'être vraiment la ville-centre du Nord-Isère qui rayonne sur tout ce territoire. Aujourd'hui, ce potentiel, il est un peu inexploité, un peu endormi, et on a un projet pour permettre de donner cette trajectoire-là, cette ambition-là à Bourgoin-Jallieu.
Vous avez un mandat de conseiller régional.
Tout à fait.
Alors, et cette candidature, est-ce que c'est évident, vous rassemblez toute la droite? On sait que peut-être il y aura une liste FN, mais qui a du mal un petit peu à se réunir. Est-ce que vous posez en position de rassembleur, justement, au niveau de la droite?
Bien sûr. C'est d'ailleurs la différence avec ce qui se passe à gauche, ça vous a pas échappé. Dans cette élection, nous, à droite, nous avons fait l'union. C'est une union, d'abord, en termes de génération, d'approche politique. À mes côtés, j'ai Jean-Pierre Girard, qui est le leader historique de la droite à Bourgoin-Jallieu. On a vraiment fait le choix de la complémentarité entre son expérience, à la fois il a été plusieurs fois candidat, il dirige l'opposition, il a eu lui-même des mandats importants, il a été conseiller régional également. Donc cette expérience-là, il me l'apporte, et moi j'apporte, je pense, un regard nouveau, peut-être une énergie nouvelle. Et ce ticket, je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin pour donner toutes les chances, nous donner toutes les chances de l'emporter dans cette élection. Et au-delà de ça, on a une liste qui a reçu le soutien de toutes les forces de la droite, puisqu'on est soutenu par l'UMP, par l'UDI, mais qui en fait rassemble bien au-delà. Le premier parti de ma liste, en fait, c'est la société civile. Quand on regarde, il y a plus de gens qui n'ont pas de carte que de gens qui en ont. Et c'est en fait tous ceux qui veulent le changement, parce que chacun comprend bien que si on veut le changement dans cette ville, ça, faire le choix du Front National, puisque vous en parlez, ça n'a pas de sens. C'est pas le Front National qui demain va diriger Bourgoin-Jallieu, d'abord parce que c'est pas envisageable compte tenu du candidat, compte tenu du projet. Donc voter Front National, c'est perdre sa voix, en tout cas si on veut le changement à Bourgoin-Jallieu. Le changement, c'est nous qui l'incarnons, effectivement, avec une liste qui est vraiment une liste d'union, de dynamisme, de renouvellement, dans laquelle je pense beaucoup de Bergaliens peuvent se reconnaître.
Et alors néanmoins, si la liste Front National ne voit pas le jour, vous irez chercher ces voix-là?
Ah mais moi j'ai toujours été très clair par rapport au Front National, on m'a posé la même question pendant les législatives, j'ai donné la même réponse. Moi j'exclus depuis toujours toute alliance avec le Front National parce que ça n'a pas de sens, c'est même pas seulement une question de valeur, c'est aussi simplement que c'est un parti qui surfe sur un certain nombre de mécontentements. On peut entendre ces mécontentements, mais avec des propositions qui n'ont aucun sens. C'est pas en sortant de l'euro, en fermant les frontières de la France, en se repliant sur nous-mêmes, en essayant de retourner au 19e siècle qu'on va construire l'avenir. C'est juste absurde. C'est un parti qui ne sait jouer que sur les peurs et sur les frustrations, donc qui n'apporte aucune réponse concrète. Et c'est pareil dans cette élection municipale. Il n'y a aucune réponse concrète qui est apportée par le candidat. Mais les gens qui votent Front National, quand 20% sur un territoire comme le nôtre sont tentés par le vote Front National ou dans certaines élections vote Front National. Bon, il faut évidemment entendre les attentes de ces électeurs, il faut entendre leurs discours, il faut entendre leurs inquiétudes et évidemment que je parle à ces électeurs et que je m'adresse à eux et je leur dis très franchement, faites le choix du changement. Faites en sorte que votre voix soit entendue. Si vous voulez une autre politique de sécurité, si vous voulez une autre politique fiscale, arrêtez d'avoir une ville qui a les niveaux d'impôts les plus élevés de toutes les villes qui sont autour. On regarde toutes les villes qui sont autour de Bourgoin-Jallieu, toutes ont des niveaux de fiscalité qui sont plus faibles que celles de Bourgoin-Jallieu. Si vous voulez ne plus avoir une police municipale qui fait uniquement des tâches administratives, avoir une vraie police municipale qui se bat pour notre sécurité, alors faites le choix de notre liste, parce que dans tous ces domaines, c'est nous qui avons des propositions crédibles, fortes, qui permettront de changer de cap par rapport à la gestion actuelle de la ville.
Alors en termes de sécurité, peut-être pour rebondir, plutôt plus de policiers de proximité que des caméras de vidéosurveillance peut-être.
Les deux. Pourquoi faudrait-il choisir? La sécurité, c'est vraiment un domaine où il faut tout changer. Aujourd'hui, on a une police municipale qui est une police municipale administrative, qui s'occupe du stationnement, qui met des PV. En disant ça, je critique pas les fonctionnaires. Ils font ce qu'on leur dit de faire. On leur demande de se limiter à des tâches administratives. Et même pour eux, c'est frustrant en réalité quand on va leur parler. Dans toutes les grandes villes comparables, on peut avoir à Villefontaine, on peut voir à l'île d'Abo, il y a une police municipale qui a une vraie relation directe de travail avec la police nationale ou avec la gendarmerie pour les villes qui sont en zone gendarmerie. On se répartit le travail, on se fait passer des informations, on mène ensemble des actions soit de prévention, soit de répression. Il faut que demain, la police municipale, elle puisse être sur le terrain tard la nuit et pas s'arrêter à 17h30 ou à 18h, ce qui n'a aucun sens par rapport à la réalité de la délinquance. Il faut qu'elle puisse s'appuyer sur la vidéosurveillance, qui a un rôle de dissuasion et aussi d'investigation. Quand on a des caméras, on peut retrouver plus facilement les auteurs de délits. Et tout ça, c'est une doctrine d'emploi de cette police municipale qui est complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui et qui fera que demain, les Bergaliens pourront sentir qu'ils ont une force de police municipale qui est à leur côté pour assurer leur sécurité et pas qui est uniquement là pour passer et pour mettre des PV.
Tu gères des policiers municipaux dans un budget de communal la nuit?
Alors, ça coûte un peu d'argent, mais l'administration bergalienne, c'est 400 à 500 personnes selon qui on compte exactement. On a aujourd'hui une police municipale de moins d'une dizaine de personnes. On peut augmenter de 2 ou 3 ou de 4, ce qui suffirait pour pouvoir avoir des patrouilles le soir, par exemple, en prenant sur les effectifs actuels. Quand on gère la fonction publique territoriale, on ne licencie jamais personne, c'est pas comme ça que ça marche, mais on peut, au fur et à mesure des années, ne pas remplacer certains départs, et à ce moment-là, on se crée une marge de manœuvre, et on utilisera cette marge de manœuvre pour une partie, puisque notre but, c'est aussi de réduire un petit peu les effectifs par ce phénomène de non-remplacement de certains des départs, mais en partie, on aura quelques recrutements, notamment de policiers municipaux, c'est quelque chose qui peut tout à fait se gérer de manière souple au cours d'un mandat.
Très bien. Alors, peut-être pour reprendre le débat dès le départ, la commune, aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle était auparavant. On a vu l'apparition des intercommunalités. Le Bourgoin-Jallieu fait partie de la CAPI, de la communauté d'agglomération de Porte de l'Isère. Et puis, on a l'apparition de la métropole lyonnaise. Alors aujourd'hui, quelle place, finalement, pour la commune au sein et quel pouvoir pour le premier magistrat de la commune?
Moi, je suis toujours un peu surpris quand on dit « Ah, maintenant qu'il y a la CAPI, Bourgoin-Jallieu, il y a moins de pouvoir ». Parce qu'en fait, la CAPI, c'est qui? C'est nous. Avec mes colistiers, comme je pense que nous allons gagner en mars prochain, eh bien, nous serons tous élus à la CAPI, enfin, un certain nombre d'entre nous. Et donc, c'est nous qui exercerons aussi le pouvoir à la CAPI. La CAPI, c'est pas tant un dessaisissement qu'une différente répartition des pouvoirs. Et donc, nous avons aussi des ambitions pour la CAPI. Nous voulons que la CAPI porte une vraie politique économique d'aménagement du territoire qui ne laisse pas Bourgoin-Jallieu à la traîne par rapport à la ville nouvelle en particulier, comme on le voit aujourd'hui. Nous voulons aussi que la CAPI assume ses responsabilités dans les domaines qui sont les siens. Je pense par exemple au conservatoire. Ça fait des années qu'on se baladait avec tout le monde sait qu'il faut rénover ce conservatoire ou en créer un nouveau et qu'on ne voit pas de projet arriver. C'est également le cas de la piscine, la piscine Tournesol, qui doit absolument être rénovée, remplacée. Donc dans tous ces domaines, en tant qu'élu à la fois bergalien et à la CAPI, nous porterons un discours de renouvellement et d'action forte. C'est absolument indispensable. Après, le fait qu'effectivement l'intercommunalité prenne de plus en plus de force, pour moi ça n'enlève rien au rôle de la commune. D'abord, il y a des domaines qui restent en propre communaux de manière très claire. C'est le cas de la scolarité, c'est le cas de la voirie, c'est partagé, mais il y a quand même globalement les questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire communal. C'est encore des questions qui aujourd'hui relèvent de la commune, même si ça peut évoluer à l'avenir. Et puis après, ce qui compte, c'est qu'il y ait une bonne articulation entre les deux. On a parlé de sécurité. Moi, je pense que demain, si on a un système de vidéosurveillance qui a un sens, c'est qu'on discute au sein de la CAPI et qu'on puisse partager les informations qui sont issues de la vidéosurveillance entre police et gendarmerie, entre les polices municipales de Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, Île-d'Abo, pour qu'il y ait un vrai réseau de sécurité au niveau de la CAPI. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut décliner dans un grand nombre de domaines. Donc voilà, il ne s'agit pas de savoir qui a le pouvoir et qui ne l'a pas. Il s'agit de savoir comment est-ce que les différents niveaux de collectivités locales peuvent travailler ensemble pour améliorer le niveau de vie, la qualité de vie de tous les habitants de ce territoire.
Et est-ce que Bourgoin-Jallieu a autant à gagner finalement dans la future métropole lyonnaise que dans la CAPI?
Alors la métropole lyonnaise, c'est encore autre chose. Bon, c'est un projet de moyen terme qui, d'une certaine manière, peut commencer à vivre à travers ce qu'on appelle le G4, c'est-à-dire Bourgoin-Jallieu, Vienne, Saint-Étienne et Lyon. Moi, c'est pas ma priorité dans la mesure où je crois précisément que l'ambition que nous portons, c'est de faire de Bourgoin-Jallieu une ville-centre de son territoire et pas une partie de la banlieue lyonnaise. Bourgoin-Jallieu, c'est la ville centre en termes de population, de situation géographique, d'une zone de 200 000 habitants. 200 000 habitants, c'est plus grand que certains départements français. D'une zone en pleine expansion, parce que justement à Lyon, évidemment, c'est une très grande, une très belle ville, mais ils ont plus de foncier. La zone où il reste du terrain dans l'agglomération lyonnaise, c'est la zone autour de Bourgoin-Jallieu. C'est pour ça qu'on a une démographie qui est assez importante. Donc, on a toutes les armes en main pour être le lieu de développement, le lieu de rayonnement, que les gens viennent à Bourgoin-Jallieu pour faire leurs courses, que les gens viennent à Bourgoin-Jallieu pour se divertir, pour voir des spectacles. Enfin, si on avait un théâtre, ce serait mieux, mais... En tout cas, le potentiel, il est là. Donc, ma priorité, c'est celle-là. Moi, je veux que la métropole, ce soit un instrument dont on se serve pour que Bourgoin-Jallieu rayonne d'autant plus qu'elle fait partie de l'agglomération lyonnaise, c'est une réalité, et ça fait partie de ce qui fait la force de ce territoire, qui est entre Lyon, Grenoble et Chambéry. Mais d'abord, il faut que Bourgoin-Jallieu rayonne par elle-même, pour elle-même, et redevienne la ville-centre qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être pour toute cette partie du Nord-Isère.
Alors, pour rebondir toujours, vous avez parlé de culture, vous avez parlé de théâtre, de conservatoire. Véronique, peut-être la partie culturelle.
Théâtre Jean-Villard, comme vous le savez, a brûlé. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant? Quelles seraient, vous, vos possibilités, vos préconisations pour une vie culturelle dynamique, même si elle est quand même encore un peu dynamique à Bourgoin-Jallieu?
Alors, nous avons, évidemment, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Par rapport au théâtre, nous avons une proposition très précise, qui est la suivante. Bourgoin-Jallieu ne peut pas rester sans salle de spectacle importante. Je l'ai dit, on veut que ce territoire rayonne. Le rayonnement, aujourd'hui, ça passe par la culture. Et ça n'a pas de sens d'opposer économie et culture. S'il y a un rayonnement culturel, eh ben, il y aura du développement économique. S'il y a du développement économique, ça permet d'attirer des gens dans des spectacles, des expositions, etc. Et dans cet esprit, nous, ce qu'on propose, c'est de créer une salle multifonctionnelle, une salle un peu plus importante que le théâtre actuel, pas au même endroit, parce que c'est pas possible pour toutes sortes de raisons d'accès. Nous, on a mis imaginer que ça puisse être sur un des terrains disponibles derrière le Leclerc, qui est à la fois pas trop loin du centre-ville et en même temps accessible en voiture. Et à cet endroit-là, eh bien, on a cette salle, on y fait des spectacles, ça redevient le théâtre de la ville, mais c'était aussi une salle qui peut être louée par des entreprises pour faire des salons, pour faire des séminaires, etc. De cette manière-là, on permet de payer en partie l'équipement. Dans la situation où sont les finances de la ville, c'est absolument indispensable. Et on a un équipement qui contribue précisément à ce rayonnement à la fois culturel, mais aussi économique. Toujours dans cette idée, on veut refaire de notre ville la ville-centre de ce territoire. Donc ça, c'est notre proposition dans ce domaine-là. On a une autre proposition dans le domaine de la culture, qui est de créer un festival de Bourgoin-Jallieu, un festival de rock. Pourquoi du rock? C'est pas seulement parce que j'aime le rock, même si c'est le cas. Avec mon équipe, on est plutôt fan. Mais surtout, on a choisi le rock parce que c'est une musique qui rassemble différentes générations. Et puis parce que y a le jazz à Vienne, il y a le classique avec le festival Hector Berlioz. Et donc, ça nous semblait avoir un sens par rapport à l'équilibre de ce territoire. Et donc, voilà, toujours la même idée. On veut qu'il y ait un moment dans l'année où tout le monde vienne à Bourgoin-Jallieu. Et ça n'existe pas aujourd'hui. Alors que il y a des villes plus petites que Bourgoin-Jallieu qui ont réussi à exister à travers un beau festival. Et tout ça, il y a une cohérence, puisque évidemment, on va faire le festival dans les salles qui existent ou au Parc des Lilas, en plein air. Mais le jour où on aura la salle multifonctionnelle, ce sera aussi un peu le cœur de ce futur festival. Et je pense qu'avec ces deux projets, on a les moyens de vraiment redonner un cap à la politique culturelle de Bourgoin-Jallieu, encore une fois dans des conditions qui sont responsables en termes budgétaires, puisque la salle, elle sera payée en partie par le privé, et un festival, c'est pas en soi quelque chose d'extrêmement coûteux, et puis ça peut aussi générer des retombées, un dynamisme économique, etc. Donc voilà les deux propositions phares de notre projet culturel.
Avec une vraie programmation musicale, une vraie programmation culturelle comme il y a eu par le passé, ou on laisse ça à d'autres, comme la CAPI par exemple?
Ah non, je pense que le théâtre, c'est un équipement de la ville. Après, compte tenu de notre projet, compte tenu notamment de la dimension salle multifonctionnelle, dimension économique, c'est normal que ce soit lié à la CAPI. Mais le théâtre, comme le festival de musique, ce sera d'abord des projets municipaux. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout doit être d'une certaine manière discuté au sein de la CAPI, non pas dans le sens où on abandonne notre compétence, mais dans le sens où on a des grands théâtres sur la CAPI, il y a aussi le théâtre du Velin. Une fois qu'il y aura une deuxième salle, j'espère qu'on discutera entre nous pour savoir quel spectacle à quel moment, ou un spectacle qui tourne de l'un à l'autre. Enfin, ça n'aurait pas de sens de s'ignorer les uns les autres, mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne notre compétence. Mon équipe, elle portera ces deux projets et elle fera en sorte qu'ils aboutissent, quelle que soit la situation à la CAPI.
Alors justement, quelle place pour le conservatoire de musique?
Alors le conservatoire de musique, c'est très clair qu'il faut aujourd'hui construire un nouveau bâtiment. Celui qu'on a est inadapté à cette fonction. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une compétence CAPI, et c'est la CAPI qui doit le prendre en charge, notamment financièrement. Donc on discutera avec eux d'un nouveau projet. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, l'idée complémentaire qu'on a, c'est que le conservatoire actuel, qui est un beau bâtiment, même s'il est plus tellement adapté pour ça, il puisse trouver une nouvelle vie, par exemple comme maison des associations, parce qu'aujourd'hui il y a toutes sortes de petites structures, parfois toutes petites, qui sont un peu partout dans la ville, qui sont souvent inadaptées, qui sont dispersées, et s'il y avait un lieu général qui puisse regrouper un grand nombre d'associations, ça permettrait de créer de la transversalité, des discussions entre elles, ça permettrait d'avoir des salles un peu plus grandes qui pourraient être mutualisées, et je pense que ce serait vraiment un beau projet pour la vie associative. Mais voilà, on peut faire ça par étapes, toujours le souci de rigueur dans la gestion. On construit un nouveau conservatoire, la CAPI construit un nouveau conservatoire, et à ce moment-là, on pourra utiliser les bâtiments dans ce sens-là.
Alors ça, ce sont pour les équipements institutionnels ou de grands événements. Bourgoin-Jallieu est Couleur FM, est l'observateur quotidien de cela, et aussi un vivier associatif d'associations effervescentes qui portent tout un tas de projets culturels. Quel soutien pour ces associations?
Alors la vie associative, c'est vraiment celle d'une vie. C'est ça qui la fait vivre, c'est ça qui lui donne son énergie, son dynamisme. Et une gestion municipale, en réalité, ça consiste d'abord à être des facilitateurs pour les entreprises qui veulent s'installer s'installer, qui veulent porter des projets, et puis des facilitateurs pour des associations qui portent beaucoup de ce qui va faire la qualité de vie, le plaisir, le divertissement, l'enrichissement pour tous les bergaliens. On a une vie associative qui est extrêmement riche, mais les associations sont quand même nombreuses à se plaindre, notamment du fait... C'est pas tellement qu'elles réclament plus de soutien, encore que souvent elles ont des besoins, après ça il faut en discuter, mais surtout qu'elles ont l'impression que la municipalité les entend pas et que quand elle répond à leurs demandes, c'est d'une manière qui est souvent assez opaque. Pourquoi est-ce que telle association a accès à telle salle et telle association non? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de subventions pour une telle et pas pour une autre? On sait pas, il y a pas de critères, c'est jamais expliqué. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir une vraie charte de la vie associative qui soit un instrument conventionnel qui lie la municipalité et les associations, où on dise clairement, bah voilà nous à quoi on s'engage, nous municipalité, à faire tout ce qu'on peut pour qu'il y ait la vie associative la plus riche possible, la plus dynamique, et on l'accompagnera. Mais vous, en contrepartie, ben voilà les engagements que vous prenez aussi, et les moyens qu'on vous donne, ils sont liés à ces engagements. Les associations qui contribuent au rayonnement de la ville, les associations qui participent notamment à toute la démarche de formation de la jeunesse, d'accompagnement, d'activité pour les jeunes, c'est normal que ce soit reconnu par la ville. Les associations qui aussi ont une action de solidarité ou qui s'ouvrent en particulier à des publics en difficulté ou à des publics handicapés. Je pense par exemple à la Fraternelle qui joue un très grand rôle dans notre ville et qui a toutes ces actions-là en parallèle. Bon, tout ça, c'est normal que ce soit reconnu. Mais ça peut être dit de manière très transparente. Et puis à ce moment-là, du coup, il y a un dialogue qui s'instaure. Et puis l'année suivante, l'association arrive en disant on a un nouveau projet qui s'adresse notamment aux jeunes des écoles de telle et telle manière et on revoit en fonction les accords entre nous. Je pense que cette approche-là serait assez saine et je pense que ça correspond à quelque chose qu'attendent les associations.
Très bien, alors on a parlé culture et musique, on vous a demandé ce petit exercice particulier de cette émission que de choisir la pause musicale. Qu'avez-vous choisi et pourquoi?
Alors j'ai choisi un morceau de Radiohead parce que c'est un groupe, j'ai parlé d'un festival de rock, donc j'ai pris un groupe de musique moderne, même si j'aime d'autres types de musique. Radiohead, c'est vraiment un groupe qui est en exploration permanente, qui est en partie sur le rock, et puis après il y a en permanence des influences de musique électrique, de jazz, de soul, de funk, etc., et qui s'est réinventé tout le temps. Et je trouve que ça, j'aime beaucoup ce type de musique, les musiciens qui sont en permanence en train d'emprunter un peu partout, parce que ils nous obligent aussi à nous ouvrir à d'autres choses en permanence. Donc voilà, j'ai choisi celui-là pour ça.
Alors on l'écoute.
Vous êtes sur Couleur FM dans l'émission Espace Public, l'émission qui donne des couleurs à la politique. Et nous sommes en compagnie de Vincent Chriqui qui se présente aux élections municipales avec la liste Faisons gagner notre ville.
Voilà, après Radiohead qu'on est désolé d'avoir coupé, mais place
c'est
au discours politique.
C'est un morceau assez long, je le concède. Android.
Place au discours politique, même si ça va à l'encontre de la philosophie de notre radio que de couper les morceaux. Voilà. Alors, vous l'avez dit, Bourgoin-Jallieu, la Capie, le Nord-Isère, c'est un territoire en plein développement, c'est plein de devenir. Et par contre, ben, on est dans une période, tout le monde le sait, en France, dans le monde, de période de crise. Alors voilà, quel avenir économique pour une ville comme Bourgoin-Jallieu? Et puis quelle place justement pour l'économie locale, pour ceux qui font localement l'économie, à la fois dans les producteurs locaux, les commerçants, les artisans, qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. On parlait des associations, notamment il y a des coopératives, pour les circuits courts. Comment gérer tout ça à partir d'une commune?
Alors, on est vraiment sur le cœur de notre projet, qui est de faire du développement économique, comment dire, le vecteur sur lequel on va construire tout le reste. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est cédé par l'économie, c'est juste que l'économie est à l'intérieur de tous les autres objectifs qu'on peut se fixer. L'économie, ça donne de l'emploi. Bourgoin-Jallieu a un taux de chômage qui est de 6 points supérieur à la moyenne du département. Donc, pour une ville qui doit être une ville-centre, un moteur économique, c'est quand même une catastrophe. Donc, il faut du développement économique pour créer des emplois. Mais le développement économique, c'est aussi la vie commerçante, et c'est aussi ça qui fait le charme d'une ville. Quand on se promène dans le centre-ville et qu'il y a des commerces ouverts, dynamiques, et pas des commerces qui sont tous en train de fermer comme aujourd'hui, eh bien, c'est ça qui fait plaisir et qui fait qu'on a envie de descendre en bas de chez soi et d'aller faire un tour, même si c'est pas forcément pour acheter. Et donc, voilà, notre priorité, c'est vraiment redynamiser le commerce de Bourgoin-Jallieu. Ça passe en particulier par une vraie politique de circulation, de stationnement, qui fasse que les gens aient envie de venir en centre-ville, même s'ils viennent de l'extérieur de Bourgoin-Jallieu. Ils arrivent avec leur voiture, ils peuvent se garer facilement et à ce moment-là, ils peuvent venir se promener et faire leurs courses. Aujourd'hui, on est dans une situation où la municipalité sortante avait promis de créer un grand parking en centre-ville pendant ce mandat, et cette promesse n'a pas été tenue. Au contraire, il y a des places de parking qui ont été supprimées. Et demain, dans le plan local d'urbanisme qui vient d'être adopté par la majorité, juste avant l'élection, ce qui est quand même assez choquant du point de vue démocratique, eh bien, en plein centre-ville, là où il y a aujourd'hui des parking des droits de l'homme, parking Hector Berlioz, le plan qui figure dans le plan local d'urbanisme montre que demain, il pourrait y avoir des constructions d'immeubles de 4 étages, 5 étages. Donc, comment est-ce que dans ces conditions, avec cette volonté permanente plutôt de chasser la voiture du centre-ville, on va redynamiser notre centre? C'est là qu'on voit que tout le monde dit on est pour les commerces, on est pour le développement économique, mais encore faut-il prendre des mesures qui vont le favoriser. Et ce qu'on voit, c'est que la municipalité actuelle fait le contraire. Alors nous, notre autre projet phare, c'est sur le terrain aujourd'hui disponible, à côté du tribunal, eh bien, on construise une halle couverte, et sous cette halle couverte, un parking souterrain. Ce sera le lieu où on mettra le marché et qui redeviendra vraiment le cœur commerçant de la ville de Bourgoin-Jallieu. Et en dessous, ces places de stationnement vont vraiment être le poumon qui permettra à la ville de se développer, et ça, c'est très important pour nous.
Est-ce qu'on doit entendre que si vous êtes élu, vous allez revenir sur ce PLU?
Alors, le PLU, c'est assez lourd à changer. C'est pour ça qu'on aurait préféré que ce soit les électeurs qui puissent trancher les grandes orientations plutôt que de les faire adopter en bout de course par une majorité sortante qui a, d'une certaine manière, a fait une sorte de coup de force pour préempter le vote des électeurs, et c'est pour ça que ça nous a pas plu. Tout ce qui empêchera ce qui est dans notre projet, il faudra revenir dessus, mais il faut savoir que ce sera un petit peu plus long et un peu plus compliqué que si on avait pu adopter nous-mêmes un PLU en adéquation avec les attentes des électeurs et avec leur vote.
Alors vous avez parlé d'emploi, naturellement, thème attenant à celui de l'économie, emploi et chômage qui a un fort taux à Bourgoin-Jallieu. Quelle finalement politique sociale comptez-vous mettre en œuvre pour accompagner justement ces problématiques? Quelle politique au niveau du logement? Quelle politique au niveau des quartiers populaires?
Alors ça fait beaucoup de questions. Moi je pense que, quand on va dans les quartiers, tous les quartiers de Bourgoin-Jallieu, mais en particulier ce qu'on appelle les quartiers populaires, ce qu'on nous dit, c'est arrêter de penser que parce qu'on est dans les quartiers populaires, on attend que du social. Nous, ce qu'on veut d'abord, c'est avoir des emplois. Ce qu'on veut d'abord, c'est avoir du développement économique. Et donc, notre priorité, encore une fois, on y revient, c'est ça. Nous, on propose que demain, il y ait par exemple une pépinière artisanale qui soit à Champfleury, c'est-à-dire que demain, les jeunes qui sortent en particulier du CFPTP ou de l'espace métier de l'artisanat puissent venir dans cette pépinière artisanale, créer des petites entreprises dans ces locaux qu'on mettrait à leur disposition ou qu'on louerait à assez bas prix, au moins pour ceux qui commencent, et avoir un petit support pour la partie administrative, etc., et que tous ceux qui ont envie de créer leur activité, eh bien, ils aient cette possibilité-là. Je pense que c'est la meilleure manière de proposer un accompagnement social qui est d'abord un accompagnement vers l'insertion professionnelle, et que c'est d'abord ça qu'attendent les jeunes et les moins jeunes qui aujourd'hui connaissent des difficultés à Bourgoin-Jallieu.
Oui, autant de questions d'un coup parce que nous sommes pressés par le temps et que vous n'aurez qu'une demi-heure meilleur comme tous les autres candidats, malheureusement. Voilà, et on aimerait terminer par une petite question, un petit peu décalée, un petit peu comme l'exercice musical de tout à l'heure. On vous a demandé, comme on vous a posé la question pour la musique, on vous a demandé le choix d'un livre qui vous serait cher et qui illustrerait finalement un message que vous voudriez passer.
Moi, j'ai choisi Anna Karenine parce que c'est un de mes romans préférés. Il n'y a pas forcément de message politique, c'est simplement que c'est un roman qui est d'une grande modernité à travers une femme, Anna Karenine, qui se retrouve dans une situation qui est compliquée par rapport à l'état, à la vie sociale de son époque, aux mœurs de son époque. Et c'est à la fois un roman de la liberté, en même temps un roman qui montre que parfois le destin, ça prend pas le chemin qu'on souhaite. C'est aussi un roman de la sagesse, à travers en particulier Kitty et Lévin, du sens de la vie, et tout ça avec une langue extraordinaire, des scènes très courtes, extrêmement saisissantes. C'est vraiment, voilà, c'est un roman merveilleux, et je le relis toujours avec autant de plaisir.
Eh bien, je vous remercie, ça sera le mot de la fin. Nous vous souhaitons donc à Vincent Chriqui, liste l'Union de la droite et du centre UMP-UDI, faisons gagner d'autres villes. Donc on se retrouve peut-être au deuxième tour.
Merci, certainement.